France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Luc Tangor, ou l'histoire d'un déni collectif et d'une vraie fausse erreur judiciaire. Il a été surnommé le Dreyfus des années Mitterrand, la victime d'une odieuse machination prise dans l'engrenage terrible d'une justice aveugle. Lui, c'est donc Luc Tangor, un jeune étudiant brillant, arrêté puis condamné pour une série de viols commis à Marseille entre 1979 et 1981. Pierre Vidal-Naquet, Marguerite Duras, François Sagan, comme Zola avant eux, tout le gratin intello se prend de passion pour son affaire. Grâce à leur force de frappe médiatique, ils lui obtiennent même une grâce présidentielle en 1987. Sauf que, libéré en février 88, Tangor récidive en mai, puis une nouvelle fois en 2014. Et la tragédie bascule en farce, car depuis le début, les policiers, mais surtout ses victimes, disaient vrai. Derrière une allure affable et inoffensive se cachait un violeur en série. Notre invité aujourd'hui, Denis Salas, magistrat, directeur scientifique des cahiers de la justice et auteur de l'essai intitulé « Erreur judiciaire » aux éditions Dalloz. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Guillaume Ballandras, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Mathieu Frette.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Août 2014, le Gros du Roi, un après-midi d'été en Camargue. Oui, c'est l'été. Parasol et crème solaire, naturisme sur la plage de l'Espiguette, ou journée sur la plage familiale textile. Il y en a pour tous les goûts ici. Les vacanciers se prélassent, tout va bien. Dans un coin, contre la jetée sur cette plage familiale, quelques enfants s'amusent dans un labyrinthe de boudins gonflables. Soudain, un cri perçant résonne, un cri pas comme les autres, un cri de terreur. C'est celui d'une petite fille. Paniquée, elle court vers les adultes et réclame sa maman. Le récit qu'elle livre est effrayant. Un individu étrange l'a suivie, puis s'est frotté contre elle avant de repartir. La description que la fillette en fait est très précise. Un homme pas très grand, trapu, aux cheveux courts et grisonnants, de 40 ou 50 ans. Prévenus, les gendarmes débarquent sur les lieux. Grâce au portrait dressé par la victime, ils retrouvent rapidement l'auteur des faits. Il est toujours là. Il se baigne tranquille avec sa fille de 13 ans. Menotté, il est placé dans une voiture. Là, il donne son identité. Tangor, Luc Tangor, 55 ans. Face à lui, le gendarme lève les sourcils. Tangor. Dans le sud de la France, ce nom a hanté les commissariats pendant près d'une décennie. Incarcéré en 1981 pour une série de viols, condamné par la justice puis gracié par le président de la République, l'homme a toujours clamé son innocence avant, pendant et après son procès. Mais avec cette nouvelle arrestation, l'opinion redécouvre l'étrange parcours criminel et médiatique de ce personnage ambigu, affable et sympathique devant les caméras, ultra-violent et déterminé face à ses victimes.
Luc Tangor, surnommé le violeur des quartiers sud de Marseille dans les années 80, est condamné à deux reprises pour viol dans les Bouches-du-Rhône et dans le Gard, refait parler de lui 14 ans après sa sortie de prison. Il est accusé d'agression sexuelle sur une petite fille de 12 ans, fait qui se serait produit dimanche sur la plage du Gros-du-Roi. Comme à l'époque, le quinquagénaire clame son innocence. Selon son avocat, son client est victime d'un tapage médiatique.
Je l'espère qu'à l'arrivée, la vérité va éclater et la vérité n'est peut-être pas celle qui est projetée actuellement dans les médias.
Alors, que va-t-il raconter cette fois ce Tangor ? Pour mieux comprendre le personnage et son parcours, il faut revenir 33 ans plus tôt, en 1981 à Marseille. Depuis quelques mois, les femmes des quartiers sud de la ville vivent dans la peur. Un rôdeur hante les rues. Marseille, nuit du 1er avril 1981. Les rues du 8e arrondissement sont désertes. Il est 2h du matin. Une voiture roule le long des immeubles de l'avenue Mazargues, puis se gare sur le bas-côté. Au volant, Sylvia Anne, une jeune femme de 31 ans. Après une soirée chez des amis, elle s'apprête à rentrer de son petit appartement. Machinalement, elle coupe le contact, détache sa ceinture, puis range ses clés. C'est alors qu'un homme surgit. venu par derrière. Il frappe à la vitre, ouvre la portière et s'installe sur le siège passager. C'est un homme brun, moustachu, pas très grand, plutôt jeune. Il est vêtu d'un blouson de cuir et d'un jean, mais surtout, il tient une arme. Calme et déterminé, il se présente comme un fuyard recherché par la police. Elle doit absolument lui obéir, dit-il, et surtout ne pas poser de questions. Le canon planté dans les côtes, Sylviane redémarre, tétanisée. Sur les indications de l'homme, elle sort de Marseille et se dirige vers les calanques de Morgiou. Là, dans la Pinède, la route se rétrécit. Sur les hauteurs, l'inconnu indique un petit chemin de terre, et au bout, un terrain vague. Un coin tranquille, isolé. Et soudain, dans la pénombre, l'attitude de l'homme change brutalement. Il se montre agité, menaçant, et son discours l'est tout autant. « Je vais te violer, lui dit-il. Si tu fais ce que je te dis, je ne te tuerai pas. » Sidéré, Sylvia ne bouge pas, tandis que l'homme bascule son siège en position couchette. Le viol dure de longues minutes. Une fois l'horreur commise, l'agresseur change à nouveau d'attitude, et cette fois, le voilà poli, presque doux, comme s'il voulait s'excuser d'ailleurs. Il fait une proposition incongrue à sa victime, la ramener devant chez elle. Le trajet retour s'effectue dans un silence de mort. Et quand la voiture revient enfin à Avenue Mazargues, l'homme ordonne à Sylviane de s'arrêter. Puis il ouvre la portière et disparaît dans la nuit. Quelques instants plus tard, la jeune femme entend une autre voiture démarrer, au loin, la sienne, celle de l'agresseur. Le lendemain matin, 2 avril, elle se rend au commissariat central de Marseille, l'évêché. Quand le policier découvre son récit, il s'interroge. Cette histoire, il l'a déjà entendue. Et pour cause. En un peu plus d'un an, c'est la 9e femme qui porte plainte en décrivant le même scénario. Comme le confirme Alain Dijot de la PJ de Marseille, au micro de France 2.
Le modus operandi était toujours le même, pratiquement. Ce garçon se présentait sur les parkings au moment où la victime garait sa voiture et qu'elle arrêtait le moteur. Bon, il se présentait à la portière, la menaçait soit d'une arme de poing, soit d'un couteau. Partant de là, il se faisait conduire jusque dans les chemins de Morgiou, là-bas. Où là, bon, ben, il se livrait à des activités sexuelles, bien sûr, contre le gré de la personne.
Neuf femmes, toutes agressées de la même manière par le même individu. Un jeune moustachu, vêtu d'un jean, d'un blouson en cuir et de baskets blanches. Chacune des agressions a commencé dans le même secteur, le 8e ou 9e arrondissement, puis s'est poursuivie sur les hauteurs de Morgiou. Pour commettre ces crimes, l'auteur a parfois utilisé de la vaseline ou même de l'huile de moteur. Et à chaque fois, il s'est fait raccompagner avant de reprendre sa voiture. D'ailleurs, plusieurs victimes sont formelles. Elles ont reconnu le son caractéristique du moteur d'une Citroën 2 chevaux.
Là, après être parti, les victimes... Presque toutes nous ont dit, j'ai entendu un bruit de voiture, de moteur de voiture, qui ressemble à le bruit d'une deux chevaux.
À l'évêché, les enquêteurs marseillais s'inquiètent. Comment coincer ce criminel? D'autant qu'au lendemain du viol de Sylviane, une nouvelle agression est recensée. Et puis une semaine plus tard, une autre. L'inconnu à la moustache viole à nouveau sur un parking de Morgiou. Après avoir fait un tour aux archives, puis recoupé les fichiers d'anciennes affaires, les fonctionnaires dénombrent 17 victimes, entre le 6 décembre 79 et le 10 avril 81. 17 femmes ont été violées ou agressées avec, à chaque fois, la même signature, celle d'un violeur en série qui rôde dans les rues de la capitale phocéenne. Naturellement, la peur s'installe dans les quartiers sud. Les femmes refusent de sortir seules, et le soir venu, tout le monde regarde par-dessus son épaule. Bientôt, un journaliste du Méridional, José Darigo, trouve un surnom à l'agresseur.
J'avais titré au fur et à mesure des viols, le violeur des quartiers sud. C'est devenu une espèce de mythe qui s'est perpétué de journal en journal, qui s'est transformé en psychose pour les femmes des quartiers sud.
Le violeur des quartiers sud. Face à la pression médiatique et populaire, les autorités sont sommées de réagir. Le préfet de police ordonne aux différentes unités marseillaises de se concentrer sur cette affaire. Il faut tout faire pour attraper l'agresseur. Grâce aux différents témoignages, un portrait robot est réalisé. On y voit le visage d'un jeune brun à moustache de type européen, un type semblable à tant d'autres. Pour l'attraper, un important dispositif de surveillance est mis en place dans les 8e et 9e arrondissements de Marseille. Et très vite, ça paye. 11 jours après le viol de Sylviane, le 12 avril 1981, vers 23h30, des policiers en patrouille sur le boulevard du Prado observent le manège inquiétant d'un homme louche. Oui, il semble aux aguets, comme s'il surveillait quelqu'un. Une fois leur voiture garée, les fonctionnaires procèdent à un contrôle d'identité. L'homme s'appelle Luc Tangor, il a 22 ans, il est étudiant en éducation physique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ressemble bigrement à leur client. Brun à moustache, 1,70 m environ, il porte un blouson en cuir, un jean et des baskets blanches. Ça fait beaucoup. Après une fouille rapide, les soupçons se confirment. Glissé sous son blouson, les policiers découvrent emballé dans du papier journal un couteau de cuisine. Et quand on lui demande comment il est arrivé sur ce boulevard, l'homme désigne sa voiture garée dans la contre-allée. Une Citroën 2 chevaux. Embarqué à l'évêché, Luc Tangor plaide la méprise. D'ailleurs, il a réponse à tout. S'il était sur le boulevard du Prado, dit-il, c'est parce qu'il avait rendez-vous avec un copain, tout simplement. Le couteau, c'est juste pour se défendre, au cas où. Quant à la 2 chevaux, inutile de chercher bien loin, en 81. Ils sont des centaines de milliers à conduire cette icône de la route. Mais face à lui, les policiers sont perplexes. Et c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait le profil du rôdeur de nuit, cet Tangor.
Mais c'était un garçon qui ne vous faisait pas mauvais effet, vous voyez ce que je veux dire. C'était un jeune, quoi, correctement vêtu, type bonne famille, vous voyez. Je ne dirais pas qu'on lui a donné le bon Dieu sans confession, mais enfin, un garçon qui vous paraissait bien. Hein. Il s'exprimait d'une façon correcte, vous voyez.
Propre sur lui, issu d'une bonne famille, d'accord. Oui, mais voilà. Il ressemble tellement au portrait robot. Et puis il y a la tenue, la voiture et surtout le couteau. Alors, cet étudiant de 22 ans est-il le violeur des quartiers sud? Ou bien s'agit-il juste de quelqu'un qui passait au mauvais moment, au mauvais endroit? Après une première nuit en cellule, Tangor est confronté le lendemain matin à plusieurs victimes. Placé derrière une glace sans teint, au milieu d'un groupe de policiers qui lui ressemblent, on appelle ça une parade d'identification en langage policier. Tangor est reconnu formellement par 4 femmes. Parmi elles, Sylviane. « Quand vous avez eu un violeur à 3 cm de vous, dit-elle, vous n'oubliez jamais son visage. » Quelques jours plus tard, les policiers perquisitionnent le domicile de l'étudiant, un studio en contrebas de la corniche de Marseille. Là, ils trouvent un blouson taché de vaseline, comme l'ont rapporté certaines victimes. Mais ce n'est pas tout. Dans la poche, il découvre une arme de poing factice. Plus accablant encore, sur la crosse, il y a de la terre séchée. Or, l'une des victimes a raconté qu'il avait posé son arme à terre sur un chemin de Morgiou avant de la violer. Les 2 morceaux de terre sont comparés par un expert. Ça colle. Pour les policiers marseillais et la presse locale, c'est sûr, le violeur des quartiers sud est identifié. Inculpé pour viol et agression sexuelle, Luc Tangor est incarcéré au Beaumont. Et Marseille respire. Pourtant, même s'il est enfermé, le suspect continue de clamer son innocence. Toute cette affaire n'est qu'un immense malentendu. Son seul tort, dit-il, c'est d'avoir marché sur ce boulevard à 1h tardive, rien d'autre. Et dans son entourage, personne ne croit à ses accusations. Comment ça, Luc, un violeur impossible? Lui, l'étudiant gentil et serviable, le jeune sportif qui a du succès auprès des filles, issu d'une famille équilibrée, il est incapable de commettre de telles horreurs. Interrogé, sa mère, Marie, témoigne, au micro de FR3.
Moi, ça a été une montagne qui m'a écrasée complètement.
Vous avez pleuré, qu'est-ce que vous...
C'était un choc, j'étais anéantie et j'ai fermé le magasin, je suis partie à la maison comme folle. Et ma fille, elle est venue et me dit « Maman, donne-moi les clés du magasin. » Moi, je continue parce que tu sais la vérité, on va vite la savoir. Et de toute façon, on ne craint rien parce qu'on sait que Luc est innocent. Tu verras, tout sera au clair dans 10-15 jours, c'est tout.
Pour sa défense, Luc Tangor choisit une avocate proche de la Ligue des droits de l'homme, Anne Disler. Et très vite, celle-ci découvre plusieurs angles morts dans l'enquête de police. Il y a d'abord cette parade d'identification effectuée au lendemain de son interpellation. Réalisée à la va-vite par la police, elle a exposé Tangor au milieu de policiers tous plus grands que lui. Et ce n'est pas tout. Parmi les hommes présentés, il est le seul à porter des baskets blanches sans lacets. Mal rasé, abattu, il détonne clairement au milieu de ces gaillards fringants. Et pourtant, malgré tout cela, plusieurs victimes ne l'ont pas reconnu. Mais ce n'est pas le seul point indiscutable de l'enquête. Pour de nombreuses agressions, Luc Tangor présente un alibi. Amis, famille, mais pas seulement. Pour le viol de Sylviane, par exemple. Il assure qu'il était hospitalisé au même moment à Sainte-Marguerite pour une réaction allergique. D'ailleurs, il y était aussi le lendemain, jour d'un autre viol. Et il se trouve que le registre de l'hôpital confirme. Cependant, parmi le personnel et les patients, personne ne se souvient de lui. Alors, qui croire? Des années plus tard, Luc Tangor en personne s'expliquera dans l'émission « Faites entrer l'accusé ».
Immédiatement, lorsque j'ai été arrêté, j'ai demandé ce qu'on fasse les vérifications auprès de l'hôpital, si bien autant auprès des malades que du personnel hospitalier. Et à ma grande surprise, alors que mes avocats et moi-même demandions ce qu'il soit interrogé, il n'était pas interrogé. Les mois passés, et 14 mois sont écoulés avant qu'enfin on daigne interroger les témoins de l'hôpital. J'ai des alibis, notamment un soir j'étais dans un bal, tous les étudiants de l'UREPS le confirment, ils n'ont toujours pas été interrogés.
Dans sa prison, Luc Tangor ne se laisse pas abattre. Alors il se met à écrire, beaucoup. Entre les failles du dossier et sa force de persuasion, il réussit à agréger autour de lui un petit comité de soutien. Ses parents, sa famille bien sûr, mais aussi ses camarades de fac, ou encore quelques amis de la famille. Hableur, beau parleur, convaincant, l'inculpé montre une force de conviction sans pareil pour se défendre. Persuadé de l'innocence du jeune homme, le comité de soutien s'active. Grâce à l'avocate Anne Dissler, très engagée politiquement, le groupe entre en contact avec quelques figures de la vie culturelle parisienne. Et peu à peu, de nouveaux noms se joignent à la lutte. Des gens de gauche, comme Marguerite Duras, François Sagan, ou encore le célèbre historien Pierre Vidal-Naquet, mais aussi des hommes politiques de droite, comme Jean-Claude Gaudin, Alain Perfitte ou Dominique Baudis. En 1983, à la veille du procès Tangor, un conglomérat d'intellectuels et de politiques se bouscule pour défendre le petit étudiant moustachu. Bientôt, tous vont se polariser sur une question. Et si Tangor était à nouveau Dreyfus?
Sur quelle chaîne juger un homme? Séparer le fond.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Luc Tangor.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Aix-en-Provence, 19 mai 1983. Sous un soleil de printemps, la foule des grands jours se presse devant le palais de justice. Aujourd'hui doit s'ouvrir le procès du violeur des quartiers sud, Luc Tangor. Accusé au départ d'avoir violé ou agressé 17 femmes, il n'est jugé que pour 11 d'entre elles, mais 11 tout de même. Pour sa défense, le jeune homme peut compter sur son avocate, Anne Dissler, mais aussi sur un véritable réseau de soutien issu des hautes sphères parisiennes. À la tête de ce comité, on trouve une amie de la famille Tangor, chercheuse au CNRS, Gisèle Tichanet. Luc, elle le connaît bien, elle lui a fait garder ses deux filles plusieurs fois, et il n'a jamais posé problème. Quand elle ouvre le dossier, elle remarque tout de suite les failles, et en premier lieu cette parade d'identification réalisée au lendemain de l'arrestation de Tangor. Il faut à tout prix sauver le jeune homme des griffes de la justice.
On peut parler de forcing, oui, de forcing de reconnaissance, parce que quand même, le présenter dans de telles conditions, il n'avait même pas dans la première présentation, il n'avait même pas de lacets aux chaussures, c'était donc le suspect numéro un. Bon, et personne ne correspondait au portrait robot, c'est ça qui est dur. C'est que non seulement il y avait les jeans et les tennis, mais que tous les autres avaient plus de 30 ans, or le portrait robot c'était 20-25 ans, tous les autres étaient plus grands. Donc, il ne restait plus que Luc qui correspondait au portrait robot. Cela a amené les femmes à le désigner.
Luc Tangor, victime d'un malentendu, innocent, embarqué dans un engrenage infernal. C'est en tout cas sa ligne de défense. Et dès l'ouverture des débats, il se montre imperturbable. À la fois poli et combatif, Tangor connaît son dossier sur le bout des ongles. À la moindre faille, il s'engouffre, n'hésitant pas à interrompre les magistrats ou même à dire aux femmes qui l'accusent qu'elles se trompent. « Vous me prenez pour un autre », dit-il, les yeux dans les yeux. Face à lui, le président de la cour s'énerve et certaines victimes vacillent et se referment comme si elles avaient honte d'être là. Ce phénomène de double peine est bien connu. Et du côté de la famille Tangor, c'est encore pire. Convaincus de l'innocence de leur fils, les parents se montrent démonstratifs et parfois même virulents.
Votre témoignage à nous, il compte pour nous. Parce qu'avant tout, il fallait qu'on soit convaincus nous-mêmes de son innocence, vous voyez, pour le défendre. Parce que, je vous dis sincèrement, si vraiment il était coupable, je ne crois pas qu'on le défendrait avec la force que nous le défendons actuellement. Mais seulement, le seul fait qu'on nous a dit que cette nuit-là, il avait commis des viols alors qu'il était à la maison, ça c'est une preuve flagrante pour nous. Luc est vraiment pas dans le coup. Et nous sommes persuadés.
Traumatisées par l'agression qu'elles ont subie, voilà les victimes considérées par toute une partie du public comme les responsables de l'accusation d'un innocent. Le 24 mai, arrive le moment du verdict. Pour la défense, ce n'est pas fait entrer l'accusé, c'est place au condamné. De fait, à une voix près, Luc Tangor est déclaré coupable pour 4 viols, une tentative et 6 attentats à la pudeur. 15 ans de prison. Tangor est escorté hors du palais de justice sous les protestations de ses proches et de sa famille. Touché mais pas coulé, Tangor n'abandonne pas le combat. Du fond de sa cellule de Muret, près de Toulouse, il continue de clamer son innocence. Et il peut toujours compter sur son comité de défense. Plus motivé que jamais, Gisèle Tichanet publie le résultat de son travail de contre-enquête dans un livre baptisé « Coupable à tout prix ». La thèse qu'elle défend est simple. Tangor a été arrêté en pleine période électorale alors qu'un débat sur l'insécurité faisait rage. Paru en 85, l'ouvrage montre sur sa couverture un portrait de lui, fidèle à l'image qu'en ont tous ses proches, un jeune homme doux et inoffensif, loin, bien loin du criminel dépeint par la justice. Gisèle Tichanet répond aux questions des journalistes, comme ici, sur FR3.
J'ai assisté au procès. Au fur et à mesure du déroulement du procès, je me suis fait une opinion, et l'opinion, c'était Luc est innocent. Donc quand j'ai entendu le verdict, j'ai pensé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, sans faire quelque chose.
D'avoir vécu cette affaire, d'avoir écrit ce livre, ça a changé beaucoup de choses dans votre vie.
D'abord, ça m'a épuisée. Et puis ça a changé, oui, ça a changé ma vision du monde d'une certaine manière. Je crois que j'étais un peu innocente.
Mais Gisèle Tichanet n'est pas la seule intellectuelle à prendre publiquement la défense de Luc Tangor. Parmi le comité de soutien, une autre voix s'élève, celle de Pierre Vidal-Naquet. Historien de premier plan, spécialiste de l'Antiquité, proche de Sartre de Beauvoir, engagé contre la colonisation, Vidal, comme on l'appelle, a un pédigré impeccable. Alors forcément, quand il prend la défense de l'étudiant marseillais, les caméras se tournent vers lui.
J'ai la conviction absolue que Luc Tanguard est innocent des crimes pour lesquels il a été condamné. Et cette erreur judiciaire était en passe de devenir quelque chose de plus grave, un crime judiciaire. C'est, si vous voulez, l'affaire Dreyfus de Monsieur Tout-le-Monde. Luc Tanguard, c'est n'importe qui est susceptible d'être arrêté dans la rue, et parce qu'il a une tête qui ressemble à un vague portrait robot, peut tomber entre les pattes de l'appareil judiciaire. Tandis que Dreyfus était au moins un officier état-major. Et sa culpabilité, si vous voulez, on pouvait à la limite l'envisager. Elle n'existait pas, mais on pouvait l'envisager. Dans le cas de Tanguard, c'est n'importe qui, Monsieur Tout-le-Monde.
Devenu coqueluche des intellectuels, Tanguard se transforme en symbole de l'erreur judiciaire. Il est le coupable idéal fabriqué par la police, et donc l'innocent dont la littérature a besoin, dans le sillage de Voltaire, qui avait ouvert la voie en son temps avec l'affaire Callas, que nous vous avons raconté mercredi dernier. Sous l'impulsion du comité de défense de Tanguard, des centaines de lettres sont envoyées à l'Élysée, entendez, à François Mitterrand. Élu quelques semaines après l'arrestation de Tanguard, le président socialiste ne peut pas rester insensible aux appels des intellectuels parisiens de gauche. 4 ans après le procès, le 20 juillet 87, il accorde donc une grâce aux condamnés. Et 7 mois plus tard, le 15 février 88, les portes du pénitencier s'ouvrent. Luc Tanguard est libre. Il embrasse ses parents devant les caméras et répond aux questions des journalistes présents.
Écoutez, on vient de me rendre la liberté, mais en fait, la liberté sans honneur, je crois que ça correspond absolument à rien. Et que, de toute façon, je ne suis pas réellement libre, dans la mesure où je serai en liberté conditionnelle. Et le mot conditionnel veut bien dire ce qu'il veut dire, à savoir que je suis soumis à toutes sortes de contraintes.
De quelle façon vous allez essayer justement de prouver votre innocence ?
Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire première recherche systématique d'éléments, d'indices susceptibles d'obtenir une révision de procès, et surtout la recherche du véritable coupable.
Après 6 ans derrière les barreaux, Luc Tanguard peut enfin reprendre la vie civile. Très vite, il rencontre une femme avec qui il se met en ménage, avant d'acheter un bureau de tabac situé dans le quartier de Perrache, à Lyon. Pourtant, malgré ce semblant de normalité, ni lui, ni ses soutiens n'oublient l'affaire. Dans les coulisses, tous militent pour une révision du procès. Réhabilitation totale ou rien. La liberté et l'honneur. Pourtant, quelques mois plus tard, un nouveau crime va donner tort à tous ses soutiens. Une épouvantable douche froide pour tous ces intellectuels dont la sincérité ne fait aucun doute, certes. Mais, et c'est un très gros mais...
C'est un homme normal. La police ne vient plus le tracasser. Il est innocent aux yeux de la France entière, ou presque.
Je le voyais régulièrement, Luc Tanguard. Une amitié s'était liée entre nous et je lui fais confiance.
Interpellation aujourd'hui à Lyon.
3 mois après sa libération.
Luc Tanguard.
Luc Tanguard.
Luc Tanguard.
Formellement reconnu. Est à nouveau soupçonné d'avoir violé 2 étudiantes américaines.
Nîmes, 23 mai 1988. Gyrophare allumé, une voiture de la gendarmerie fonce sur l'autoroute A6. 2 jeunes femmes viennent d'appeler depuis une borne d'urgence. Ce sont des étudiantes américaines et elles sont terrifiées. Malgré la barrière de la langue, les fonctionnaires ont tout de suite compris l'urgence de la situation. Quand ils arrivent, les gendarmes découvrent 2 amis prostrés. Elles s'appellent Jennifer et Carol et elles viennent de vivre un calvaire. Après avoir été prises en stop à la sortie de Marseille, elles ont été violées à quelques kilomètres de là par l'homme qui les a embarquées. Au départ, il était plutôt sympathique, ce conducteur, disent-elles. Un petit brun aux cheveux bouclés, serviable, gentil. D'ailleurs, une fois arrivé à Nîmes, quand il a dit vouloir aller cueillir des cerises, elles ne se sont pas méfiées. Mais les routes se sont rétrécies et il a stoppé la voiture en bordure d'un verger entre un mur de ronces et des pommiers. Et quand le moteur s'est éteint, il a complètement changé d'attitude. L'homme tranquille a laissé place à un prédateur menaçant. Il s'est retourné et il a dit je vais vous violer toutes les deux. » Et il l'a fait. L'une après l'autre, oui, sur la banquette arrière, avec de l'huile de moteur. Sidérés, les deux amis ont tout subi en silence. Pourtant, malgré l'horreur, les étudiantes ont fait preuve d'un sens pratique hors du commun. Ainsi, quand Carole a su qu'elle allait être agressée, elle a décidé de consigner dans sa mémoire un maximum de détails avec un énorme sang-froid. Alors aux gendarmes, elle égrène tout ce qu'elle a retenu, avec une précision chirurgicale. L'homme portait un polo jaune Lacoste, une chevalière et un jean blanc. Sa voiture est une 4L verte. Sur le pare-brise, on trouve trois vignettes placées à la verticale. La lumière du plafonnier est défaite et la poignée de la portière arrière droite est défectueuse. Mais ce n'est pas tout. Dans le coffre se trouvait une vingtaine d'exemplaires d'un même livre, empaqueté dans un film plastique. La jeune femme ajoute un détail surprenant. Quand l'agresseur a vu son regard se poser sur la couverture, il a tout de suite recouvert la pile de livres avec un plaid. Une fois ses sévices terminés, l'agresseur s'est à nouveau transformé. Il s'est montré rassurant, presque honteux. Avant de repartir, il leur a donné un billet de 100 francs, comme s'il se souciait d'elle. Enfin libérés, les deux amis ont couru à travers champs jusqu'à tomber sur l'autoroute et la borne d'urgence. Face à elle, les gendarmes tentent d'en savoir plus. À quoi ressemble-t-il? Et ce livre qu'il a voulu cacher? Celle qu'il a vue le plus longtemps. Commence alors un dessin de la couverture. En bas se trouve le portrait encadré d'un brun à moustache et le titre en haut comporte le terme « culpabilité ». Après des recherches intensives dans les bibliothèques et les librairies, un ouvrage retient l'attention. « Coupable à tout prix » de Gisèle Tichanet sur l'affaire Luc Tangor. Confrontées, les deux Américaines confirment. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Non seulement l'homme aurait récidivé, mais de surcroît, il s'est fait attraper à cause du livre qui prétendait démontrer son innocence.
Bonsoir, Luc Tangor est-il un violeur récidiviste? L'affaire est totalement repartie ce soir car ce Marseillais de 29 ans a été arrêté dans son bar tabac de Lyon et on le soupçonne encore une fois de viol, lui qui a toujours nié après avoir passé 6 années de sa vie en prison. Voilà donc un homme qui a été une première fois condamné, une deuxième fois libéré, une troisième fois soupçonné. Deux solutions ce soir, car il faut être clair, où il trompe depuis des années son entourage, où il est l'exemple type de ce qu'on peut appeler une sorte d'erreur judiciaire en spirale.
Incarcéré, Tangor clame à nouveau son innocence. Mais cette fois, hormis ses parents, plus grand monde se bouscule pour le défendre. 4 ans plus tard, en janvier 92, la cour d'assises de Nîmes le condamne à 18 ans de prison. Et après le verdict, ses parents hurlent à l'erreur judiciaire.
Pourquoi ils le gardent? Ils n'ont pas le droit de le garder. Il est innocent. Sachez-le qu'il est innocent. Je vous en supplie. Je vous en supplie.
Il a manqué la vérité.
La réaction du désespoir, crise de nerfs pour une condamnation annoncée. Les parents de Luc Tangor craquent. Ce verdict est pour eux une nouvelle erreur judiciaire.
Le président est un assassin.
Le président, il a malmené les débats. Depuis le début, il nous a torpillé tous les témoins. C'est une horreur judiciaire.
Mais alors, que disent maintenant celles et ceux qui l'ont défendu pendant des années? Eh bien, pas grand-chose. Ses anciens soutiens se sont retirés la plupart sur la pointe des pieds, dans le silence. Tous, sauf un, Pierre Vidal-Naquet. Conscient de son erreur, responsable de ses actes et de ses paroles, l'historien décide de publier une tribune dans Le Monde. Intitulé « Luc Tangor et notre erreur », un texte qui décortique l'affaire du point de vue des proches du condamné. Mais surtout, Vidal-Naquet insiste sur la capacité presque pathologique de Tangor à nier ses actes. Alors, de quoi souffre-t-il au fond pour faire autant souffrir ses victimes? Après 12 ans passés à l'ombre, Luc Tangor est libéré en septembre 2000. Une fois de plus, et malgré les deux condamnations, il continue de crier à l'injustice, apparaissant même dans l'émission « Faites entrer l'accusé » qui avait décidé de le recevoir. Et puis, comme on l'a vu au début de ce récit, l'ancien étudiant devenu buraliste fait une nouvelle fois parler de lui en 2014 avec l'agression sexuelle d'une jeune fille de 12 ans sur la plage. Et une fois de plus, il est condamné. Et une fois de plus, une fois de trop, il dénonce une énième manipulation. Prédateur et menteur, il l'était, prédateur et menteur, il le reste. Et pendant ce temps, ses victimes souffrent, certaines condamnées à souffrir à perpétuité. Comme tant d'autres, dans d'autres affaires, ce récit leur est dédié.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Luc Tangor. Notre invité, Denis Salas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice, directeur scientifique des cahiers de la justice et auteur d'un essai intitulé « Erreurs judiciaires » et plus récemment « Le déni du viol » paru chez Michalon. La fin du récit était dédiée aux victimes. Avez-vous le sentiment que la sphère judiciaire, la sphère médiatique et la sphère tout court, l'opinion publique, prend plus en compte le sort des victimes ?
C'est incontestable. À l'époque de l'affaire Tangor, les victimes sont totalement absentes du débat judiciaire et du débat médiatique. Le réseau de soutien qui entoure Tangor occupe toute la place dans ces deux sphères. Et du coup, effectivement, elles sont livrées à elles-mêmes. On n'entend même pas leur avocat dans ces affaires à tout moment. Donc il y a effectivement aujourd'hui un basculement. Aujourd'hui, on se préoccupe certes effectivement du cas d'un innocent qui peut être condamné à tort, mais on se préoccupe aussi des cas où l'impunité règne du fait qu'effectivement les victimes ne sont pas confrontées à leur véritable coupable. D'où le basculement, si vous voulez, de la sensibilité collective. Aujourd'hui, les victimes occupent toute leur place. À l'époque, je rappelle qu'il y avait l'affaire Tangor et l'affaire Goldman aussi, où on voit un même réseau de soutien avec Régis Debray comme figure emblématique, qui vient occuper tout l'espace pour prétendre effectivement à l'innocence de celui qui finalement sera condamné, comme dans l'affaire Tangor.
Alors vous êtes un spécialiste, non pas de l'erreur judiciaire, mais de l'observation du phénomène d'erreur judiciaire. On dit erreur judiciaire. Une erreur, c'est pas, en principe, c'est pas grave. Pourquoi pas faute judiciaire ? Parce que les enjeux sont extrêmement graves. Bon, c'est une question de sémantique.
Vous avez raison, la loi ne définit pas ce que c'est qu'une erreur judiciaire. Elle évoque l'erreur judiciaire comme étant le prétexte à un jugement de révision de la condamnation si un fait nouveau intervient, ce qui a été décidé après l'affaire Dreyfus en particulier. Mais derrière l'erreur, il y a les failles de l'institution, il y a les dérapages de l'enquête, il y a un expert qui peut se tromper, il y a un débat contradictoire qui peut ne pas être correctement mené, il y a une forme de défaillance de l'institution que, effectivement, la justice ne repère pas de manière très précise jusqu'à une période beaucoup plus récente où on prend davantage en compte la faillite collective de l'institution, comme dans l'affaire d'Outreau, par exemple, où là, il y a eu effectivement ce qu'on appelle un fiasco judiciaire, c'est-à-dire un dysfonctionnement général de l'institution qui a conduit à des erreurs massives.
Oui, parce que la parole des enfants, qui était quasiment sacralisée par la justice avant sur le principe que la vérité sort de la bouche des enfants, il y a eu quand même une rupture avec l'affaire Outreau. Hein.
Ah oui, la rupture est très forte, parce que dans cette affaire, effectivement, on a vu que la justice est allée beaucoup trop vite dans les hypothèses d'enquête pour condamner prématurément des présumés pédophiles sous la foi, effectivement, d'un témoignage des enfants qui était totalement sacralisé.
Alors, l'erreur judiciaire peut se transformer parfois, c'est rare, mais heureusement, mais ça arrive, en horreur judiciaire. Je pense à l'affaire Patrick Dils, par exemple. Voilà un garçon qui était martyrisé par la justice, la police et par ses co-détenus, violé plusieurs fois, enfin des choses absolument abominables. Il a vécu un martyr. Comment peut-on accepter qu'on, dans une démocratie comme la nôtre, puisse avoir des martyrs comme ça, que l'erreur judiciaire devienne horreur judiciaire ?
Parce que dans l'affaire Dils, en particulier, il y a eu ce que le mot horreur judiciaire est, je l'ai entendu tout à l'heure, de la part des parents de Tangor. Horreur, erreur, il y a le glissement sémantique est significatif. Mais non, dans ce type d'affaire, c'est pas une erreur, c'est une faute de l'enquêteur qui a été ensuite confirmée, en tout cas n'a pas été infirmée par les juges successivement, qui a piégé le jeune Dils à partir d'un stratagème qui lui a été tendu. études, sachant qu'il était mineur à l'époque, c'était assez facile.
Il était un peu faible psychologiquement.
Faible psychologiquement, il voulait rentrer chez lui, simplement, mais il était suffisamment faible pour qu'un enquêteur expérimenté puisse l'abuser, le confondre dans ses déclarations, et ensuite fixer au dossier un présumé aveu qui va effectivement ensuite emporter la preuve, qui va convaincre les juges.
Et on sait après, on comprend après, on sait, c'est officiel que c'était Francis Holm qui a tué ces deux gamins le long de la voie ferrée. Ouais, voilà. Alors, il y a aussi le débat sur l'intime conviction. Là, l'affaire Omar Radal, par exemple, il est condamné, avant d'être gracié, il est condamné sur l'intime conviction. Est-ce que l'intime conviction, c'est pas un réservoir à erreur judiciaire ? C'est terrible, ça.
Oui, mais c'est un héritage de la Révolution française. On voulait que le jury souverain exprime la volonté du peuple et était effectivement paré de toutes les vertus. Et à l'époque, jusqu'en l'an 2000, on n'avait pas d'appel des procès d'assises parce que le jury était présumé ne pas commettre d'erreur. Alors évidemment, on en est revenu, mais il faut quand même rappeler ce qu'est l'intime conviction dans l'esprit de la législation. C'est à la fois effectivement une conviction, comme le mot l'indique, qui est intime, mais qui se base sur des faits, sur la raison, hein, qui s'exprime dans l'analyse qui est faite par des preuves par le jury. C'est pas une émotion, hein, c'est une réflexion sur des preuves collectivement débattues par les différents acteurs, et notamment le jury et les juges, qui va permettre d'entrer en vérité, en quelque sorte. Je rappelle aussi quand même qu'il y a aujourd'hui un appel des vérités de cour d'assises depuis quelques années, qui permet quand même de donner à l'intime conviction une possibilité au juge de rattraper en quelque sorte une éventuelle erreur en revisitant totalement l'affaire dans une deuxième collégialité. Et donc l'intime conviction, il faut aujourd'hui, je crois, la relativiser.
Est-ce que le principe soulevé par Voltaire avec l'affaire Calas, hein, qu'on a raconté mercredi dernier, vaut mieux libérer un coupable qu'emprisonner un innocent, c'est toujours ancré dans la tête de tous les magistrats, des avocats, de la justice.
Cet impératif voltairien est toujours évidemment très fort parce que effectivement la défense de l'innocence fait partie de la tradition républicaine depuis l'affaire Calas, depuis l'affaire Dreyfus, etc. Mais aujourd'hui aussi, on se préoccupe d'un coupable qui peut être en liberté. Et les victimes nous le rappellent très souvent. Elles nous le rappellent aussi. Moi, ce que j'appelle l'erreur d'impunité, dans les travaux que j'ai pu faire sur l'erreur judiciaire, l'impunité aussi n'est pas aussi absente de la réflexion des juges. Beaucoup de législations actuellement en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, permettent une révision des procès quand un accusé a échappé à la justice, en permettant effectivement de le rejuger dans l'hypothèse où il aurait commis d'autres faits.
France Inter. Affaire sensible.
Denis Salas, dans notre affaire Luc Tangor, il y a donc cette mobilisation des intellectuels. Il y a cette formule, ce titre, pas forcément heureux d'ailleurs, affaire Dreyfus de Monsieur Tout-le-Monde, parce que les motifs sont différents. Dans l'affaire Dreyfus, il y a surtout l'antisémitisme. Hein. Donc c'est une mauvaise formule, mais bon, tout le monde l'a reprise. Ça arrive. Qu'est-ce qui s'est joué là? Comment vous analysez comme ça cette mobilisation des intellectuels? Encore une fois, ça nous rappelle Voltaire et Calas, décidément. On n'en sort pas, mais tant mieux.
C'est une mobilisation fondée sur l'amitié, je dirais. On a entendu tout à l'heure que Gisèle Tichanier, qui a fait le bouquin « Coupable à tout prix », est très proche de Luc Tangor. La famille, les copains de régiment ou de travail le trouvent un garçon sympathique qui ne peut pas ne pas avoir commis un tel geste. La famille est très mobilisée, les deux parents. Et puis, grâce à l'avocate qui est une militante de la Ligue des droits de l'homme, une connexion se fait avec l'intelligence française et notamment la figure de Pierre Vidal-Naquet, qui était très engagé déjà dans une autre affaire, qui est l'affaire Audin.
Oui, en Algérie, bien sûr.
En Algérie, au profit effectivement de quelqu'un, d'un mathématicien qui avait été torturé par les parachutistes et qui avait effectivement soutenu l'abolition, enfin la critique de la torture dans l'armée, se sentait coupable. Donc tout ça s'est agrégé finalement progressivement. Vidal-Naquet a dit, on l'a entendu, j'ai eu la conviction absolue il le dit très très clairement, que c'était un crime, le mot de crime judiciaire est emprunté à Jean-Denis Bredin, un avocat aussi de Tangor, dont j'ai pas entendu d'ailleurs qu'il avait émis un mea culpa, comme l'a fait Vidal-Naquet, mais peu importe. Donc voilà, tout ça s'est agrégé progressivement et a permis effectivement de construire un réseau de soutien qui s'est effectivement proclamé comme étant un rival de la vérité judiciaire qui s'est construit parallèlement. Avec cette très grande... Alors, ce qu'il faut aussi comprendre pour des parents de Tangor, admettre pour des personnes profondément intègres et dans une empathie avec leur enfance qu'on peut tout à fait comprendre...
Sincère d'ailleurs, la mobilisation
oui,
est
oui,
vraiment sincère.
Oui, totalement. Mais comment ces parents-là Faut le comprendre. Vous pouvez imaginer un instant que leur fils était le violeur du Sud. C'était impensable.
Mais bien sûr, ça se
Donc
comprend.
On peut comprendre la douleur des parents, notamment on l'a entendu tout à l'heure à la fin du deuxième procès, qui effectivement est déchirante. Donc on a entendu cette souffrance-là. J'ajoute un mot qui m'a beaucoup frappé dans le texte que Vidal-Naquet a écrit après, que vous avez cité tout à l'heure, après le deuxième procès qu'on a Tangor à 18 ans de prison. Il a dit « J'ai défendu Tangor comme mon fils ». Comme mon fils. Donc, aucune distance.
Eh oui, c'est un
aucune
problème,
distance
hein.
Chez l'intellectuel, aucune distance chez les avocats, aucune distance, mais là on peut davantage le comprendre, chez les parents.
Et on comprend aussi, je parlais de la sincérité des parents bien sûr, mais de la sincérité des intellectuels qui se sont mobilisés. Là on peut pas leur faire un procès en insincérité, c'est une erreur, mais bon. Okay.
Non. Ils étaient totalement convaincus de l'innocence de Tangor, comme ils étaient convaincus de l'innocence de Audin, etc. Il y a une tradition républicaine qui là malheureusement n'a pas trouvé de traduction intègre de cette défense absolue de l'innocence.
Est-ce que la mobilisation médiatique, la présence médiatique, tout simplement, et l'opinion publique constituent un caillou dans la chaussure de la justice ?
Oui, parce que le récit des médias peut ne pas coïncider avec le récit proposé par la justice. Le récit proposé par la justice est lié aux faits, aux preuves. Nous allons jusqu'au bout des preuves qui nous sont présentées, disent souvent les procureurs et les juges. C'est une vérité interne, construite par des normes, par des règles, par des convictions qui s'enchassent à différents niveaux de la procédure, alors que la vérité médiatique, enfin, le récit médiatique, est un récit totalement libre, narratif, pouvant prendre parti pour telle ou telle cause, sans aucune espèce de contrainte normative. Donc c'est deux récits qui peuvent diverger, qui peuvent aussi converger.
Mais ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Denis Alas. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Luc Tangor, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.